9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, chers amis auditeurs, si vous nous rejoignez. Et pardonnez-moi cette indiscrétion, mais à quelle heure vous êtes-vous couché hier? Faites-vous partie de ceux qui, comme Naïma Benchemann, qui travaille dans mon équipe, s'est couché très tard parce qu'il y avait en diffusion le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones, 8e saison. Beaucoup de fans dans le désarroi. Pourquoi? Parce que demain ne sera plus jamais comme hier. Il n'y a plus de Game of Thrones. Comment on peut vivre sans Game of Thrones, Naïma? Vous allez nous le dire. Alors, il y a quand même de France aujourd'hui qui nous écoutent, ceux qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais vu cette série. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous prendre la main et parler de toutes les séries aussi, comment elles colonisent nos vies, pourquoi leurs univers vous fascinent. On plonge avec vous dans ces mondes très à part qui nous rendent parfois addicts avec nos invités spécialistes des séries. Et vos témoignages, ma chère Julie, ils sont importants jusqu'à 11h.
Au 39-21, 50 centimes la minute, et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec deux spécialistes, Pierre Langlais, journaliste pour Télérama, spécialiste des séries. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ilan Ferry, rédacteur en chef du hors-série du magazine Lire, que vous avez consacré, qui est encore en kiosque et qui est formidable, au phénomène Game of Thrones. Bonjour Ilan Ferry.
Bonjour.
Un partenariat avec Europe 1, je vous le recommande. Messieurs, vous avez vous aussi vu le dernier épisode de Game of Thrones. Pour nous plonger un peu dans l'ambiance, pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, Pierre, dites-nous, parce qu'on voit ces personnages en peau de bête venus du froid, on se dit, mais où sommes-nous? Est-ce qu'on est dans un univers qui a déjà existé? Est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Et de quoi parle-t-on?
De quoi parle-t-on? C'est très compliqué, parce que c'était une très longue histoire qui est basée sur des livres d'un monsieur qui s'appelle George R.R. Martin, qui s'appelle Le Trône de Fer en français. Et ça raconte l'histoire de deux continents, enfin principalement un continent, Westeros, qui est un continent imaginaire. On est effectivement à une époque qui ressemble au Moyen-Âge, donc on appelle ça de la médiévale fantasy. Donc la fantasy, hein, c'est le Seigneur des Anneaux, ce genre d'histoire avec des dragons, des monstres, etc.
D'accord.
Sauf que là, on est plutôt sur quelque chose de moyenâgeux avec une dose de magie. Donc il y a une magicienne, il y a des dragons, mais qui est à la marge, si j'ose dire. Et cette histoire-là, c'est celle de grandes familles qui se font la guerre pour ce fameux trône de fer. Donc le jeu des trônes, Game of Thrones en l'occurrence, le titre en anglais. Et qui pendant 8 saisons se sont entretués pour savoir qui finirait sur ce trône de fer. Et qui ont aussi dû affronter les Marcheurs Blancs, qui sont des êtres surnaturels venus de l'extrême nord du continent et qui, eux, sont vraisemblablement là pour anéantir toute humanité. Donc voilà quels étaient les grands enjeux de cette histoire qui s'est terminée il y a deux jours.
D'accord, donc il y a quand même pas mal de science-fiction. Il y a un fond historique ou pas, Ilan Ferry, pour les amateurs du Moyen-Âge, pour les médiévistes qui peuvent vous écouter?
Oui, tout à fait, parce que George R. Martin est aussi un grand amateur des Rois Maudits, fameuse série française.
D'accord.
Et littéraire.
On rappelle que lui est américain.
Oui, voilà. Mmh. Et il s'est inspiré de beaucoup de supports comme ça. C'est un grand amateur d'histoire, de littérature fantasy. Donc forcément, il y a un fond à la fois historique et actuel dans Game of Thrones, parce que Game of Thrones, c'est aussi une série sur les jeux de pouvoir. Donc il y a quelque chose d'extrêmement actuel, pardon, dans ce que raconte George R. Martin dans son livre, et ce que raconte Benioff et Weiss, les deux showrunners de la série, dans la série.
Il paraît que c'est une série hyper violente, où on montre tout sans tabou, des scènes d'égorgement, des scènes de viol. Enfin, c'est quand même le monde pas rose tel qu'on l'imaginerait dans un domaine de science-fiction qui pourrait nous amener un peu ailleurs, non Pierre?
Oui, alors c'est effectivement une série violente. Il faut rappeler qu'elle a été diffusée aux États-Unis sur une chaîne qui s'appelle HBO, qui est une chaîne à péage, qui est payante, qui s'adresse à un certain public. HBO était historiquement la chaîne des grandes séries, les Sopranos, Six Feet Under, The Wire, les séries Oz, des séries qui souvent n'ont pas de tabou justement et font avancer les choses parce qu'elles montrent un peu de tout. Alors Game of Thrones, ceci étant dit, a été attaquée régulièrement pour la façon dont surtout elle montrait le sexe, les violences faites aux femmes. Il y a eu une évolution de la série à ce niveau-là. Mais par ailleurs, on est dans un monde médiéval, dans un monde de guerre, dans un monde barbare, au premier sens du terme. Et donc, ça paraît assez logique que ça soit une série violente.
Oui, 90 millions d'exemplaires de ce livre qui a inspiré la série vendue dans le monde. 30 millions de vues pour chacun des épisodes. Donc, vous multipliez pour cette série qui a été diffusée pendant 8 ans. Naïma Benchemann, vous travaillez avec nous.
Oui.
Et en l'occurrence, vous êtes une fan de ce qu'on appelle GOT. Hein. En résumé, ce sont les initiales Game of Thrones, GOT, ça va aller plus vite. Il y a des Américains, 11 millions, qui ont posé une journée de récupération au lendemain dimanche soir, donc le lundi. Ils ne sont pas allés bosser parce qu'ils voulaient se faire une nuit folle, Game of Thrones, et quasiment célébrer le deuil de cette fiction ?
Bah, un petit peu. Moi, hier, justement, je faisais un apéro Game of Thrones comme tous les lundis depuis le début de la saison 8.
On explique dimanche soir, c'est diffusé aux États-Unis.
C'est diffusé aux États-Unis.
Et le lundi.
Et nous, c'est en ligne en France à partir de 4h du matin.
Mais c'est payant ?
C'est payant sur OCS.
D'accord, OCS, voilà. Et sinon c'est piraté. Quoi.
Voilà, c'est piraté.
Ouais. 1,5 million de téléchargements illégaux, on le redit quand même. Parce que...
Oui, c'est assez énorme.
Oui. Et donc vous avez trouvé votre apéro hier soir.
Exactement, et j'ai une de mes amies qui a posé une RTT ce matin.
D'accord, mais voilà. Pourquoi ? Pour digérer,
bah, la fin de Game of Thrones, parce que ça fait tellement d'années qu'on s'est impliqué dans l'évolution des personnages de cette série.
Mais c'est pas vous qui montez les dinosaures,
les dragons. Non, non, j'aimerais bien, mais non. Oui. Mais effectivement, on s'est tellement impliqué dans cette série à suivre des personnages dans lesquels on a pu croire. Ce qui est aussi important dans Game of Thrones, c'est qu'il y a des personnages auxquels on s'attachait dès le début, mais qui disparaissaient très vite de la série. Ça, c'est quand même une des originalités de cette série.
D'accord.
Et donc, à suivre comme ça leur parcours au bout de 8 saisons, bah oui, c'est difficile de se dire que bah on les verra plus. C'est toujours compliqué de dire adieu. et surtout, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans GOT, c'est que c'est une série qui crée un rendez-vous. Mmh. C'est-à-dire que chaque semaine, on attendait le nouvel épisode, on avait envie de le partager avec des personnes. Après l'avoir partagé, on avait envie d'en parler. Et je trouve que ça crée des communautés.
Mais ça, Pierre, c'est propre à chaque série, j'allais dire.
Bah, en fait, c'est propre à une certaine conception des séries qui est en danger, si j'ose dire, même si tout est relatif. C'est qu'avec l'arrivée de Netflix, Amazon, Hulu, toutes les plateformes, qu'elles soient en France ou pas, on a vu apparaître, quoi qu'Hulu aux États-Unis continue à avoir un mode de diffusion qui est un épisode par semaine pour la plupart de ces séries. On a commencé à voir des séries Netflix, c'est le modèle le plus évident, mais en ligne tous les épisodes d'un coup. Donc, à créer un nouveau mode de consommation, enfin, nouveau, qui existait à une époque avec les DVD, avec les cassettes VHS et tout ce qu'on veut. Mais en fait, le rendez-vous, le principe fondateur de la série télé, qui est ce rendez-vous hebdomadaire de partage, qui en plus est magnifié par les réseaux sociaux, qui fait qu'on peut en plus maintenant, aujourd'hui, être dans un partage à plusieurs millions, et non
hashtag
plus seulement...
Got the final.
Voilà. Et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, Game of Thrones a aussi battu des records à ce niveau-là, au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai que Game of Thrones, pour pas mal d'analyses, c'était un peu la dernière grande série à rendez-vous. Moi, je ne serais pas aussi négatif, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres à l'avenir.
Mais évidemment.
J'espère, bien sûr.
Bon, vous restez avec nous, Naïma, Pierre Langlais pour Télérama, Ilan Ferry pour le magazine Lire, dont vous êtes rédacteur en chef pour le hors-série, en partenariat avec Europe 1. On va parler de Game of Thrones, de ce phénomène, de la manière dont vous avez suivi ou pas cette série très addictive et de toutes les séries. Comment se sont-elles imposées dans nos vies ? À tout de suite sur Europe 1, on fait le tour de la question, Julie.
Tour de la question avec la poste.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Les fans de Game of Thrones sont déjà en manque. Ils ont vu hier soir le dernier épisode de la 8e et dernière saison de cette série américaine adaptée d'une saga littéraire. Wendy Bouchard.
Je vais vous faire pleurer, Naïma. Pour la dernière fois, vous avez entendu ça hier. Le générique de Game of Thrones, 8e saison, dernier épisode diffusé dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis hier soir sur la chaîne OCS, Orange Cinéma Série. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs, mais Ilan Ferry, vous disiez qu'il y aurait probablement un certain nombre de désabonnements. Certains se sont abonnés juste pour suivre Game of Thrones.
Oui, tout à fait. Oui, maintenant que la série est terminée, il y en a qui envisagent de se désabonner d'OCS justement parce qu'ils ne voient malheureusement plus aucun intérêt à s'abonner, alors que bon, il y a d'autres séries intéressantes à
justement
voir.
Oui, parce que Pierre Langlais, ils ont tout le catalogue HBO, vous disiez.
Voilà, la chaîne HBO qui est un peu la grande chaîne historique bien sûr payante des séries télé, alors qui aujourd'hui a beaucoup de concurrence, mais qui à la fin des années 90 a vraiment été à l'origine de la nouvelle ère, de la nouvelle révolution sérielle moderne. Et puis il faut dire aussi que pour ceux qui sont passés, il y a déjà ce qu'on appelle, désolé pour les anglicismes, amis auditeurs, mais c'est ça les séries télé, d'un spin-off, donc une série dérivée qui est en préparation. Et donc l'histoire, le monde, l'univers de Game of Thrones, comme c'est le cas pour beaucoup de séries populaires, va s'étendre. Alors à savoir de quelle qualité ce sera, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas mort, le monde de Game of Thrones.
Nous avons Caroline sur Twitter, hashtag Europe 1, qui est fan d'histoire, elle aime le Moyen-Âge en particulier, mais elle dit, mais rien que le résumé de GOT paraît totalement lunaire. Est-ce qu'on est vraiment dans un autre monde ou est-ce qu'il y a des codes qu'on peut appliquer, notamment pour les conquêtes de pouvoir aujourd'hui, dans les luttes d'influence, Naïma ? Est-ce que c'est ça qui vous plaît aussi, ce côté qui résonne un peu contemporain ?
Moi, ce que j'aime bien, oui, c'est ça. C'est ces différentes familles qui se disputent ce trône de fer comme si c'était le Graal. Mmh. Et toutes les trahisons que ça suppose. Et je trouve que dans Game of Thrones, enfin, en tout cas pour ma part, on choisit un camp. Et on a envie que ce camp gagne. Mmh. Et donc on est.
C'est comme un jeu de rôle en fait. Ce que
c'est un peu comme
là.
Un jeu de rôle, ouais, je trouve moi Game of Thrones.
Oui.
Et voilà, et on suit la famille pour laquelle on est le plus attaché. Et voilà, on suit ces luttes de pouvoir, c'est cette envie d'accéder au pouvoir comme si c'était pour nous quoi.
Mais c'est pas lunaire du tout en fait. Hein. Enfin, ah ouais, mis à part évidemment les marcheurs blancs et les dragons et la petite dose de fantaisie et de fantastique qu'il y a là-dedans. Oui. En fait, ces luttes de famille, Ilan le disait, George R. Martin est intéressé par l'histoire d'Angleterre. Alors, en plus, si vous regardez une carte de Westeros, ça ressemble beaucoup à la Grande-Bretagne. Hein, donc, il y a des parallèles. C'est historiquement les luttes familiales qu'on a pu avoir dans l'histoire d'Angleterre. Alors, je ne suis pas historien, donc je ne rentrerai pas dans le détail.
Oui.
Mais en fait, c'est relativement réaliste. Et c'est d'autant plus réaliste que tout ça est basé sur des sentiments non seulement très humains, d'amour, de filiation, etc., mais aussi sur des luttes de pouvoir qui ressemblent à ce qu'on peut voir. D'ailleurs, on s'est tous amusés à un moment ou à un autre à faire des montages avec des hommes politiques contemporains sur le trône de fer.
Enfin, voilà, c'est bien, vous avez fait bien. Philosophie et mythologie selon Game of Thrones, c'est à lire aussi dans le hors-série de Lire, justement, Ilan Ferry. Vous mettez en avant un certain nombre de chiffres parce que vraiment, Game of Thrones est un peu emblématique. Voilà pourquoi on consacre aussi une heure à Game of Thrones et aux séries de l'univers des séries. C'est la série de tous les records. 15 millions de dollars investis par épisode, c'est quelque chose, hein, gros moyen. 533 actrices, acteurs au casting de la série. C'est ça qui vous a paru aussi intéressant de souligner, Ilan Ferry, dans cet hebdomadaire mensuel.
Oui, bien sûr, parce que Game of Thrones, c'est un phénomène de société, mais c'est aussi des chiffres qui sont grisants. C'est un milliard de dollars générés par tout le business Game of Thrones, les produits dérivés, les DVD.
Il y a
DVD
même un Monopoly, hein, Game
voilà.
of Thrones.
Il y a un Monopoly Game of Thrones, il y a un Cluedo Game of Thrones.
Cluedo pour vous, je vais vous l'offrir, Julie.
Oh,
avec des dragons.
Mais que devient le colonel Moutard dans cette version?
Bah, il a des ailes maintenant.
Qui était drôle, très drôle. Donc oui, Game of Thrones, c'est un véritable phénomène de société qui peut être décliné de mille et une manières différentes. Et c'était ça qu'on avait envie de mettre en lumière, voir comment justement le support littéraire s'est affranchi des librairies pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est sur différents supports. Comment on peut décliner l'univers Game of Thrones en dehors de la littérature et de la série.
Mais ce qui est bon aussi dans cette histoire, parce qu'on va recevoir Françoise qui est assez critique vis-à-vis des séries, c'est qu'elle alimente quand même les librairies, la littérature. Je le redis, 90 millions d'exemplaires vendus, 45 millions aux États-Unis de ces livres qui ont inspiré la saga.
Bien sûr. L'intérêt aussi de la série, c'est qu'à la base, il y avait déjà une communauté très forte de fans des livres de George R. R. Martin et qu'avec la série, ils ont réussi à fédérer encore plus de monde. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui voyaient ces personnages prendre vie sur grand écran voulaient justement voir si leur sort était même en littérature et s'intéresser à cet univers qu'ils ne connaissaient pas.
D'accord. Il continue à écrire, l'auteur ?
Alors, il continue, même si il y a des rumeurs. Alors, de toute façon, maintenant, c'est réglé. Hein. Ça fait deux saisons qu'il a été dépassé par la série, alors dont il a été producteur et tout. Donc, il a quand même...
Ah,
il a été lié à la série. Hein. Ils n'ont pas acheté les droits et au revoir, George R. R. Martin. Il a été quand même impliqué. D'ailleurs, la légende dit qu'il a accepté qu'on adapte son bouquin parce que les deux scénaristes auraient deviné là où il veut aller. C'est-à-dire qu'il aurait dit, à votre avis, ça va se finir comment ? Les gars lui ont répondu, ils ont dit ok, c'est bon, je vous vends mes droits. Ah. Et maintenant, la série a choisi sa voie et on attend de savoir comment les livres choisiront leur voie à eux. Et c'est ça aussi qui est fascinant. Il y a plusieurs séries aujourd'hui qui font ça. C'est-à-dire,
par exemple,
la série. Il y a The 100 qui est aussi une série qui s'adresse à un public plus jeune, qui est aussi une série fantastique et qui a aussi une version littéraire. Et moi, je trouve ça fascinant qu'il y ait des correspondances, des réponses comme ça, qu'il y ait le livre va aller à gauche, le bouquin à droite et les mêmes personnages ont deux destins différents. Pourquoi pas ? Moi, je trouve ça intéressant.
Et pour l'instant, on parle pas de cinéma, là on reste à la télé, on parle des séries télé. Françoise va réagir juste après la pause à vos propos, chers amis. Pierre Langlais pour Télérama, Ilan Ferry pour le magazine Lire, Naïma Benchemann qui est une fan de GOT et n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'elle n'est pas la seule. On s'en fout, il y en a des millions de Français qui suivent aussi cette série, en tout cas qui l'ont suivi pendant 8 ans. A tout de suite, Julie.
Europe 1.
Allez, retour à Game of Thrones. Tiens, j'ai un petit message.
Alors,
de
oui.
Nicolas. C'est la meilleure série de tous les temps, mais avec la fin la plus décevante. Ah hein, oui, vous êtes d'accord tous les trois,
Sophie, on suit. Bah, vous dites
pas compliqué
fin,
de dire quoi que ce soit,
mais non, deux fois non. Alors déjà, c'est pas la meilleure série de tous les temps. Je suis désolé, je vais me faire des copains, mais il y a beaucoup, il y a quand même pas mal de séries bien meilleures que Game of Thrones. C'est certainement un des meilleurs grands divertissements de tous les temps. Ça, il y a pas de problème en termes de d'amplitude, de bataille, de moyens. Mais les moyens, l'argent pour l'argent, ça sert à rien. Mais en tout cas, les moyens étaient bien visibles. Donc ça, c'est vrai. C'est une grande œuvre populaire et il en faut, surtout à l'heure où les séries ont du mal à être considérées comme de l'art et comme quelque chose qui se respecte encore pour pas mal de gens. Quant à la fin la plus décevante, il y a un paquet de fins beaucoup plus décevantes que celle-là. Oui, c'est une série qui a un peu dérapé, qui a pas vraiment réussi sa sortie la dernière saison. Elle est inégale, pour parler poliment. Le dernier épisode, moi, j'ai trouvé ça plutôt touchant et plutôt juste, même si ça divise évidemment.
Et Ilan Ferry, comment vous avez trouvé ça, la fin? On ne le dira pas, bien sûr.
Le dernier épisode, moi, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode. Je l'ai trouvé absolument sobre et digne dans la lignée de ce que voulait raconter George R. Martin et de ce que voulaient raconter les showrunners. Je comprends qu'il puisse y avoir une frustration quant au côté un peu minimaliste entre guillemets de cette fin, mais je la trouve totalement logique.
Vous dites que c'est conforme à l'auteur et au showrunner, c'est quoi?
Les showrunners, c'est les créateurs de la série.
D'accord.
Qui avaient rencontré George R. Martin il y a quelques années et
qui ont cheminé ensemble.
C'est ceux qui adaptent le livre, en fait. C'est
voilà,
ça
tout à fait.
Le texte.
Ouais.
Mais il paraît, alors, qu'on va parler de la communauté de fans absolue de Game of Thrones, qu'il y a une pétition Naïma qui circule, 1 500 000 pétitionnaires déjà pour refaire
la saison 8.
Et qui met l'argent, les amis. Mais en tout cas, ça fait
parce que les gens, forcément, je pense qu'ils se sont chacun s'imagine sa propre fin. Donc, quand ça correspond pas forcément à ce qu'on s'était imaginé, il y en a qui. Pour qui ça prend des proportions complètement lunaires.
Ça prouve que vous avez vraiment mépris pour vous dans votre vie, ce produit culturel.
Oui, on le prend vraiment. Très à cœur, vraiment. Après, de là à faire une pétition pour demander au showrunner de réécrire la saison 8, j'irai pas jusqu'à là.
Non, il voulait changer les scénaristes.
Carrément changer les scénaristes.
De tout cela, il y a Françoise qui surgit. Chère Françoise, merci beaucoup de vous intéresser à la fois au phénomène Game of Thrones, que vous ne connaissez peut-être pas du tout, et j'en fais partie, Julie aussi, et aussi au phénomène des séries. Bonjour Françoise, que pensez-vous de ce rapport justement aux séries télé aujourd'hui?
Eh bien écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, voir ça continuellement que des séries policières que je ne regarde pas beaucoup, hein, je regarde quelques minutes pour savoir la première fois, mais c'est pour moi complètement inintéressant. Ça rend le cerveau des jeunes, complètement, ils sont complètement imbibés de tout ça et n'ont plus de réflexion perso. Voilà.
Bon, Pierre Langlais, il se met la main dans la tête dans les mains et il veut vous répondre, Pierre. Bonjour, et journaliste
Françoise.
À Télérama.
Bonjour Françoise.
Voilà, c'est mon sentiment.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez des exemples autour de vous, pardon Françoise, de ces jeunes qui
mais
sont
oui,
imbibés?
Mais je vois, j'ai des petits enfants, bien entendu. Hein, l'un a 12 ans, il a la tête dans son téléphone. Tout le temps.
Oui, mais
voilà.
Il regarde les séries ou il regarde
ses
SMS.
Voilà.
D'accord.
Ils ne savent plus s'intéresser à autre chose.
Alors, Pierre, il y a peut-être ce danger d'hyper-addiction quand même.
Oui, alors j'allais dire, pour toutes les choses, il y a un danger d'hyper-addiction et pour toutes les choses et toutes les formes artistiques, il y a un danger de regarder des œuvres de mauvaise qualité. Oui. Non, c'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Si vous limitez le cinéma à Avengers et aux grands blockbusters, vous allez forcément penser qu'il n'y a qu'une sorte de cinéma, quelle que soit sa qualité d'ailleurs. Si vous ne regardez que TF1 ou France 2 le vendredi soir et que vous ne pensez qu'il n'y a que des séries policières, c'est le même problème. Il y a une immense diversité de séries télé. Certaines sont des œuvres très exigeantes. D'ailleurs, aujourd'hui, le cinéma et les séries se répondent en permanence, donc il n'y a plus de hiérarchie faisable. Et je pense que le problème, c'est que il y a, moi je pourrais dire, voilà, il y a trop de divertissement de mauvaise qualité à la télé, il y a trop de mauvais footballeurs, peu importe. En fait, il faut juste prendre le temps de regarder la complexité des œuvres. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mettre toutes les séries dans le même sac et à prendre le temps de les considérer vraiment plutôt que de les juger sans les avoir vues.
Guylaine, vous pouvez rejoindre Françoise et converser. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Parce que vous êtes fan de séries, votre fille est une grande fan de Game of Thrones. Peut-être rassurer déjà Françoise éventuellement sur ce que peut regarder son petit-fils.
Alors, moi, j'ai une grande fille qui est grande fan de Game of Thrones, qui est magnifiquement... c'est magnifique, hein. Moi, je suis une amoureuse inconditionnelle de la série American Horror Story.
Et c'est de l'horreur, puisqu'il y a le mot horreur dans l'histoire.
Non, c'est pas vraiment de l'horreur. Non, c'est pas de l'horreur.
D'accord.
C'est sur Netflix.
D'accord.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque saison, il y a un début et une fin d'histoire.
Oui, donc on peut s'y retrouver.
C'est magnifique. Jessica Lange a joué dedans. Mmh. C'est très bien fait. Il y a toujours un message derrière. Et secondo, j'aime. Bon, c'est mon goût, c'est Z Nation et The Walking Dead, mais qui arrive un peu à essoufflement quand même.
D'accord. Et vous regardez ça en famille avec votre époux ?
Non, pas du tout. J'attends que mon mari aille se coucher parce qu'il a horreur des séries fantastiques.
Des séries fantastiques et on le vend en poupe. Bah, restez avec nous un petit peu, Guylaine. Je vous remercie, Françoise. Bon, c'est votre sentiment. On ne vous a pas forcément rassuré, mais la diversité prônée par Pierre Langlais, c'est aussi bien de l'avoir mise en avant. Merci, Françoise. Et à tout de suite pour parler du phénomène des séries, comment elles ont colonisé nos vies. On en parle jusqu'à 11h.
Le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones était diffusé hier soir. Les Français sont accros à ces séries, à toutes ces histoires de conquête de pouvoir, de crimes, de trahison, d'histoires d'amour, dans ce royaume du passé qu'on peut situer un petit peu où on veut.
Oui, c'est ça aussi l'intérêt de Game of Thrones, c'est qu'on est dans une période passée plutôt moyenâgeuse, mais dans un royaume dont on ne sait pas vraiment où il se situe, Ilan Ferry.
Oui, c'est ça. On est dans un royaume imaginaire. Et en fait, ce qui fait l'intérêt de la série Game of Thrones, c'est que pour la première fois à la télévision, on voit un univers d'heroic fantasy qui s'invite chez nous, ce qu'on n'avait jamais vu avant.
Ce qu'on a vu au cinéma, en fait.
Voilà. La guerrière, quand même. Oui, tiens à le dire.
Mais on n'avait pas des dragons aussi impressionnants que dans Game of Thrones. C'est un univers aussi vaste, aussi complexe, avec justement aussi des enjeux politiques qui renvoient à ceux d'aujourd'hui et même à ceux du passé. Donc c'est ça qui est intéressant,
oui.
C'est de mêler l'imaginaire au réel en utilisant des codes qui jusqu'ici étaient connus que d'une certaine communauté, la communauté littéraire, qui est fan d'heroic fantasy, de dark fantasy.
Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est Tolkien, c'est
heroic fantasy, voilà, oui. C'est Tolkien. Il y a Tolkien et il y a George R. Martin. George R. Martin qui est considéré, donc l'auteur de Game of Thrones, entre guillemets, à tort ou à raison, en tout cas comme le Tolkien américain. Il y a autant de différences que de similitudes entre ces deux auteurs. George R. Martin est un grand fan de Tolkien, il s'en est beaucoup inspiré, il est très flatté quand on le compare à Tolkien.
Ce qui est incroyable, c'est que ces bouquins, il les a écrits en 1993, vous me disiez ?
C'est ça, c'est d'ailleurs que...
Parce qu'il y a 25 ans et la série ensuite l'a rattrapé, quoi.
C'est ça, c'est d'ailleurs qu'avant Game of Thrones, George R. Martin est effectivement un auteur de genre, plus orienté fantasy, mais aussi un peu fantastique, mais ces livres, même s'ils ont reçu des prix, n'ont pas eu le succès en librairie qu'il escomptait, à tel point qu'à un moment donné, l'un de ses grands livres a connu un échec monstrueux. Il a voulu se reconvertir comme agent immobilier.
Ouais, bah, il a bien fait d'attendre.
Voilà. Ouais. Et il a fallu Game of Thrones pour
jackpot.
Recréer sa vocation.
Incroyable. Julie, vous avez des commentaires à nous livrer?
Oui, il y a justement Benoît qui dit qu'on oublie trop les livres qui sont bien meilleurs que les séries.
C'est le cas pour Game of Thrones ou pas?
Au pluriel, j'ai essayé de les... Oui. Et certaines personnes me disent que les bouquins sont quand même pas super bien écrits. Alors, ceci étant dit, encore une fois, j'essaye de ne pas faire des comparaisons. Ce sont deux formes artistiques différentes et c'est super de lire, c'est super de regarder les séries. On peut faire les deux à la fois. Et d'ailleurs, on peut lire les bouquins dont la série s'inspire et vice-versa. C'est deux histoires qui finissent par diverger.
Oui, nous sommes toujours avec Guylaine, dont vous nous disiez, Guylaine, que vous êtes fan de American Horror Story, de Walking Dead. Ça, ce sont des zombies, Walking Dead?
Oui, tout à fait.
Je voulais juste rebondir, répondre à...
Il me semble que c'est Françoise,
oui,
c'est ça,
oui,
la
exactement.
Dame.
Bah, qui est là.
On peut aimer, moi et ma fille, on aime les séries, mais on aime aussi les films étrangers, on lit, on voit les documentaires. Faut pas être non plus, vous voyez, c'est pas parce qu'on regarde des séries qu'on est forcément... Mais c'est tellement pauvre à la télé en ce moment, ouais, que je me dis que heureusement qu'on a toutes ces offres où on voit des petits bijoux aussi de films étrangers. Vous voyez, c'est pas parce qu'on regarde des séries qu'on est forcément
acculturé ou imbibé, voilà, comme
au contraire, tout à fait. Et je voudrais juste préciser, je vais peut-être vous faire rire, je suis aussi une grande fan, bon, c'est autre chose, d'Harry Potter.
Ah bah c'est autre chose, oui et non, parce qu'on retrouve quand même des éléments de fantasy et de science-fiction,
oui.
Hein. Je vois que vous êtes très éclectique dans vos choix, Guylaine.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Et elle a raison, merci. Guylaine, Pierre Lenglet, de dire que le catalogue d'offres de Netflix, de OCS est très important.
Au-delà de ça, il faut réaliser, aujourd'hui, on vit une époque que les spécialistes appellent ça la PIC TV, donc la télé de PIC, littéralement, c'est-à-dire une très, très grande offre sérielle. Rien qu'aux États-Unis, on atteint la barre des 500 séries par an, rien qu'aux États-Unis.
Et en France, parce qu'on vit en France, quand même.
Non, aux États-Unis,
oui, non, mais,
juste.
Et en France,
si on rajoute en France les séries françaises, j'ai pas de chiffre exact, mais on est au-delà de 100-150 séries françaises.
Oui,
donc
voilà.
Et on rajoute les danoises, les norvégiennes, les anglaises, qui sont quand même massives, les israéliennes, les allemandes. Bref, l'offre, c'est plusieurs milliers de séries par an.
Oui.
Donc,
et
voilà,
vous avez du divertissement, mais exigeant quand même, comme Game of Thrones. Vous avez, puisque vous parlez d'Israël et que notre invité, Maître Parot, en parlait tout à l'heure, Fauda, série d'action entre le Hamas, les forces secrètes israéliennes. Vous avez The Americans, série d'espionnage, c'est
oui,
ça
voilà, alors qui elle aussi est finie, hein, qui est une série qui
mais
se
qu'on peut revoir sur le catalogue
mais bien
Netflix.
Sûr.
Hein.
Non, mais le catalogue et de Netflix et d'autres plateformes concurrentes sont très impressionnants. Et je pense que quelqu'un qui ne regarderait entre guillemets que quelques heures par semaine, il y a un choix tel qu'il pourra toute sa vie regarder des séries de qualité et seulement des séries
et
de qualité.
Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre un petit peu culturellement sur le monde, la manière dont on traite justement les événements, les méthodes très culturelles de séries par-delà le monde. Ilan Ferry, c'est ce que vous aimez aussi dans les séries?
Oui, bien sûr. Les séries télévisées sont une fenêtre sur le monde parce qu'à chaque série, à chaque pays, correspond aussi une autre écriture, une autre façon d'envisager la rythmique sériesque, notre manière d'appréhender la série, les intrigues, à quoi renvoient les intrigues. On parlait de Fauda tout à l'heure. Effectivement, il y a un contexte géopolitique qui est forcément là, qui est très important, mais qui l'est aussi dans Game of Thrones, parce que quand on parle justement de Winter is Coming, ça c'est le mantra.
Voilà,
le mantra de la série. Donc l'hiver vient et ça a un ancrage particulièrement significatif aujourd'hui avec toutes les questions autour du climat, ces climato-sceptiques qui disent que non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça. Donc c'est très intéressant de voir toute cette diversité, tout ce panel mondial, on va dire, c'est une sorte de courrier international sériesque.
Et je précise que l'un et l'autre, Ilan Ferry pour le magazine Lire et Pierre Lenglet pour le magazine Télérama, vous êtes membre de l'association des critiques de séries, la fameuse ACS, donc vous connaissez très très bien ce genre et vous allez remettre d'ailleurs des prix dans quelques semaines.
Oui, c'est
à
ça.
Des séries françaises.
Aux séries françaises, parce qu'on critique toutes les séries, à commencer par Game of Thrones, mais évidemment notre but en tant qu'association française, c'est aussi de souligner la qualité des séries françaises, ou pas. Parce qu'il y a des saisons bonnes, il y a des saisons moins bonnes, mais quand même, on peut dire que globalement, depuis 2005, qui est un petit peu la date clé du réveil des séries françaises, on a vu de belles choses à la télé
c'était
française.
C'était avec quoi 2005 que
c'était
ça
Engrenage.
Se
Engrenage. C'était l'arrivée d'Engrenage sur Canal. C'est un peu une date but, enfin voilà, de début de quelque chose en France, même si entre-temps, il y a eu du très bon et du moins bon.
Dites-nous quelles sont les séries françaises ou internationales que vous aimez, pourquoi vous aimez les regarder, comme Guylaine à l'instant au 39-21. On vous attend pour faire le tour de cette question. Et vous allez nous dire s'il s'agit bien de phénomène Game of Thrones et si ces séries ont bien colonisé nos vies d'une certaine manière. Pierre Lenglet, Ilan Ferry, à tout de suite Julie.
Retour à Game of Thrones, la saga qui défraie la chronique depuis 8 ans et qui cumule des records d'audience. Et pourtant, on ne parle pas d'une série qui passe sur TF1 le dimanche soir à 20h30.
Ah hein. Non, on parle
il
d'une série...
Il faut vouloir la regarder, c'est confidentiel quand même, non? Comme distribution, non? Comme
c'est diffusion. Sur OCS, justement, non Orange Cinéma série. C'est... Oui, c'est confidentiel, elle a raison, Julie. C'est
mais
pas les grandes chaînes
hertziennes. Mais la chaîne qui la diffuse, là, par exemple.
Non, bien
certes,
sûr.
Mais pour un public de plus en plus large aujourd'hui, tout ça n'a plus vraiment de sens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dématérialisation généralisée, qu'on le fasse légalement ou pas. Aujourd'hui, c'est plus seulement le diffuseur qui définit la popularité d'une série. Pour un certain public, j'entends.
Oui. Donc, on a cité Netflix comme plateforme. Il y a quoi d'autre pour ne pas
en
faire
France,
que de la...
il y a Netflix, Amazon Prime Video,
oui,
qui est lié au site Amazon. Alors, OCS, qui est une chaîne de télé, mais qui a aussi une plateforme. De toute façon, maintenant, toutes les grandes chaînes commencent à avoir des plateformes. Canal+, qui a MyCanal et Canal+ Série, qui sont aussi des plateformes. Donc, en fait, évidemment, il y a une part du public qui regarde de moins en moins la télévision linéaire, comme on dit, qui regarde en délinéarisé à l'heure qu'il veut sur les plateformes.
Elodie Miam Miam sur le hashtag Le Tour de la Question nous dit merci pour cette émission. Ma série, God je suis totalement addictive. Je me suis refait toutes les saisons aussi d'une autre série que j'aimais il y a quelques semaines, Friends. Eh ben
oui,
voilà.
Oui,
parce qu'une série en appelle une autre aussi. C'est-à-dire que à la fois on regarde les séries qui arrivent sur le marché, mais aussi on a envie de se refaire un petit peu les séries d'antan. Il
oui, je pense qu'on a aussi envie de se rattacher, de se rattacher à des personnages, de resuivre la progression de personnages. On parlait de Friends, là, c'est intéressant de voir sur toutes les saisons, la dizaine de saisons de Friends, comment les personnages ont évolué. C'est ça qui fait l'intérêt aussi d'une série télé. Contrairement à un film qui condense ses enjeux sur 2-3 heures, une série télé peut se permettre en fait de développer des personnages qui soient complexes, qu'on adore détester ou qu'on adore tout court et qu'on aime voir évoluer sur le long cours. C'est l'intérêt de la série télé.
Et puis il y a des ados qui sont devenus bilingues grâce aux séries, ah aussi, oui, on va l'oublier. Hein,
ça aide. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les séries sont de plus en plus ce qu'on emploie, presque un anglicisme, méta. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le succès de Game of Thrones, quasiment toutes les comédies s'amusent à faire une blague sur Game of Thrones à un moment. Alors évidemment, le cinéma le fait aussi.
Incroyable.
Oui, mais en fait, ça fait partie de la culture populaire, d'accord, au sens large du terme. Et du coup, c'est normal. Vous et moi, dans notre quotidien, on va faire des blagues sur les séries qu'on regarde. Pourquoi les personnages de séries ne feraient pas comme nous ?
Mais est-ce que c'est grave si on n'a jamais vu de série de sa vie, ou si peu ?
Est-ce que c'est grave, docteur, comme moi, qui n'en ai jamais
non,
vu une seule ?
Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose ? Voilà.
C'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage parce que c'est quand même une forme d'écriture et une forme de fiction qui est vraiment passionnante et qui va tellement profond dans l'humanité, la complexité des personnages. Il n'y a que la littérature qui peut faire ça.
Elle nous met une vidéo, un gif de dragon sur le hashtag Europe 1. Estelle, suivre cette série Goth m'a donné l'occasion d'avoir de belles discussions et de découvrir de nouveaux points communs avec mes collègues et amis. Ça nous permet aussi, Ilan Ferry, vous le disiez, de découvrir d'autres formes d'écriture, d'autres formes de culture. Moi, j'avais adoré Borgen, cette série danoise par exemple. Et là, vous avez une tendance intéressante à nous livrer, Pierre Langlais. Ça s'appelle la glocalisation, c'est
ça ? La glocalisation, en fait, c'est un barbarisme qui existait en économie avant, qui est donc un mélange de global et de local. Mm-hmm. Et donc, c'est les créateurs, les scénaristes, les producteurs de séries ont fini par comprendre que ça ne sert à rien de faire une série qui veut absolument parler au monde entier. Ouais. Aujourd'hui, le marché, il est mondial. Et donc, la meilleure façon de toucher le public le plus large, c'était de raconter ces histoires, les histoires qui nous concernent, nous Français, Danois, Israéliens, peu importe, mais de les raconter avec une sincérité et une humanité qui fait que, en fait, même si on vit dans des pays différents, que nos enjeux sont différents, notre politique, notre religion, peu importe, l'humanité est une. Et les séries commencent à montrer ça, c'est-à-dire qu'on peut raconter une série sur un bled norvégien et que le monde entier va être ému par cette histoire-là.
Ouais, ça, c'est bien.
Et ça c'est fort.
C'est beau, ça.
Alors, puisqu'on parle vocabulaire, là, Wendy, vous avez parlé de phénomènes et de séries qui colonisent nos vies.
Oui.
Et Pierre Langlais voulait réagir en disant qu'il ne fallait pas utiliser ces termes.
C'est un phénomène, quand même, non, Game of Thrones.
Alors, Game of Thrones, oui, c'est un phénomène. Parce que c'est une série qui, sur un moment donné, a créé une forte participation du public. Les séries elles-mêmes existent depuis le début des années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, l'histoire des séries. Donc, c'est comme si je vous disais quand même le football, quel phénomène. Le cinéma, quel phénomène. Non, les séries sont un art.
Oui.
Non plus un phénomène. Pour moi, un phénomène, c'est ponctuel.
Donc, alors, on ne va pas dire qu'elles colonisent nos vies, mais qu'elles ont remplacé un peu la télé.
Elles ont remplacé rien du tout. Elles ont pris une place dans nos vies et c'est tant mieux.
Mais qu'il est contrarié.
Rien remplacé du tout, en fait. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Oui, les séries, ça tue la littérature », c'est pas vrai, en fait. Il y a plein de gens qui aiment les séries. Lire fait sa couve sur Game of Thrones, c'est pas un beau symbole.
Ah, si, c'est beau. Un hors-série qu'on trouve encore en kiosque, il a fait rien.
Oui, bien sûr.
Hors-série Game of Thrones, ultime saison, philosophie et mythologie, selon Goth Magazine Lire, en partenariat avec Europe 1. Tout de suite, chers amis, pour continuer ce tour de la question, quelques instants encore, jusqu'à 11h.
Allez, dernier épisode de notre tour de la question sur les séries, Wendy Bouchard.
Avec Game of Thrones à l'honneur, mais pas que, évidemment, toutes les séries. Pierre Langlais, journaliste spécialiste des séries pour Télérama, ainsi qu'Ilan Ferry, rédacteur en chef du hors-série du magazine Lire, consacré à Game of Thrones, sont là pour nous en parler. Est-ce que pour vous, la série s'oppose au cinéma ? On est en plein festival de Cannes, on a le sentiment quand même que les séries devraient inspiré le cinéma sur les modes d'écriture, les modes narratifs, les moyens engagés, Ilan Ferry aussi.
La série est juste une forme de narration différente, comme je disais tout à l'heure. Autant le cinéma condense ses enjeux sur 2-3 heures, autant la série peut se permettre de le faire sur le long cours. La série, c'est l'art de la patience, l'art du long cours, ce qui n'est pas forcément l'apanage du cinéma, qui est plus l'art de l'instantané. Donc oui, il y a forcément des leçons à prendre. Le cinéma aujourd'hui, des leçons à prendre à la série télé, notamment sur l'écriture des personnages, sur la manière de dérouler ces enjeux, et même sur le fait de se retrouver à la hauteur de ses ambitions. La série télé aujourd'hui n'a plus honte d'être à la hauteur de ses ambitions, de montrer des épisodes de série télé avec des batailles épiques. Là, je cite Game of Thrones, des batailles épiques, des scènes de violence, enfin des tas de choses qui jusqu'ici étaient l'apanage du cinéma. Et donc on peut sentir une certaine paresse peut-être en termes d'écriture dans certains films aujourd'hui au cinéma, autant j'ai l'impression qu'un mouvement de balancier, que dans la série télé redevient de plus en plus ambitieuse.
Ce sont deux arts différents pour vous, Pierre Langlais ?
Ce sont deux arts qui se répondent. J'ai essayé de trouver une métaphore musicale. En fait, on n'opposerait pas la country et le rock. C'est-à-dire que c'est deux types de musique qui ont des points communs, qui ont des tempos différents, effectivement. Maintenant, ça fait très, très longtemps qu'ils se répondent. Aux États-Unis, l'exemple le plus fameux, c'est Alfred Hitchcock, qui, pour Psychose, a utilisé les moyens de la télévision, qui déjà, à l'époque, faisait Alfred Hitchcock présente, qui était une anthologie, comme on dit, donc fermé avec des épisodes unitaires, mais une collection, comme on dit en français. Et donc, les deux genres se répondent. Et par exemple, une série comme 24 heures chrono, qui a beaucoup marqué le début des années 2000,
Chad
qui était
Power.
Un thriller où tout allait... ça allait à fond la caisse.
Je suis resté là. Oui.
Ça allait très très vite. Et bien, le cinéma d'action a clairement été impacté par 24 heures chrono. Les films se sont accélérés. Donc, moi, je trouve que, en fait, et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus qu'une minorité de gens qui veulent opposer les deux se regardent, s'apprennent. D'ailleurs, les acteurs font les deux, les réalisateurs font les deux, les scénaristes font les deux, apprennent l'un de l'autre et progressent ensemble. Et pourquoi faudrait-il que l'un tue l'autre ? Non, au contraire, les deux s'enrichissent mutuellement.
Merci. Cédric nous écrit « J'aime la série Peaky Blinders, qui est une série BBC disponible sur Netflix. C'est un bijou, réalisation très aboutie et particulièrement soignée. Ça se passe à Birmingham entre les deux guerres. »
Julie, et Clément nous écrit sur Facebook « Il n'y aura plus d'autres séries comme celle-là. C'est une légende. Même l'épisode le plus raté est 100 fois meilleur que tout ce qui se fait ailleurs. »
Et là, il parle de Game of Thrones.
Voilà, Game of Thrones.
Alors, parlons,
chers amis, de série française, parce que vous allez remettre des prix dans quelques semaines au compte au nom de l'Association des critiques de séries. La série, vous disiez, 2005, ça repart vraiment en France avec Engrenage. La série Le Bureau des légendes aussi a permis de coller pas mal à la réalité. On est dans l'esprit des services de renseignement. Ça, c'est par exemple une série qui continue plaît beaucoup au public français.
Tout à fait, oui. Et puis, on parlait là justement des phénomènes de balancier entre le cinéma et la série. Derrière Le Bureau des légendes, il y a un cinéaste qui s'appelle Éric Rochant, qui a fait plusieurs films d'espionnage, Les Patriotes, 93, Mobius, il y a quelques années avec Jean Dujardin et Cécile de France, il me semble.
Oui.
Donc il y a cette ambition, d'écriture, il y a cette envie justement de toujours raconter une histoire sans se limiter au format télévisuel. Et Le Bureau des légendes est très intéressant de ce point de vue-là.
Il y avait Olivier Marchal aussi avec Braco. D'autres séries françaises qui vous parlent aujourd'hui, qui sont assez exemplaires, Pierre Langlais ?
Alors exemplaires au sens où elles sont de qualité, oui. Il y a un exemple très intéressant qui est 10%, qui est pour le coup accessible. Fanny Herrero, qui est la créatrice et scénariste, en tout cas jusqu'à la dernière saison. Pour le coup, c'est une particularité de la série. Alors, il y a des contre-exemples, mais la plupart des séries ont une rotation des réalisateurs. C'est pas toujours le même réalisateur. La série est un art du scénariste, du scénario, contrairement au cinéma. C'est une des grandes oppositions, évidemment, entre les deux genres, même si, encore une fois, c'est dommage de les opposer.
Oui, mais c'est une distinction.
C'est une distinction intéressante. Et ça, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les séries ont un peu tardé à s'imposer en France. C'est qu'on est dans une culture de la réalisation, du réalisateur, de la nouvelle vague. Et aux États-Unis, le scénariste est roi depuis bien longtemps. Et en France, ça a pris quand même du temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit encore des chaînes qui communiquent sur leurs séries, sur les affiches, dans les communiqués de presse, en mettant une série de avec le nom du réalisateur. Non, une série, c'est une série de le scénariste ou les scénaristes.
Merci Pierre Langlais pour Télérama de ses propos, ainsi qu'Ilan Ferry, dont je recommande le hors-série, le magazine Lire, spécial Goethe, philosophie et mythologie. en partenariat avec Europe 1, encore en kiosque quelques jours. Naïma Bencheman, vous travaillez avec nous dans cette équipe, mais fan de God, ça vous a permis de mieux passer cette transition, cette émission avec nous ?
Oui, ça m'a beaucoup aidé, ça a été cathartique. Merci,
merci, ma chère Julie, on en a appris des choses. Si on pouvait s'abonner demain, on le ferait, honnêtement.
Pas sûr.
Allez, moi je passerai le pas. Merci Jean-François Bussière, Manuel Calma, Charlotte Arrigoni pour la préparation de cette émission. Et à demain, chers amis, merci à tous.
À demain, c'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.